nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Troquet lui dit « Justement, monsieur parlait de votre patronne. » La femme demande « Et qu'est-ce qu'il voulait à ma patronne ?» Et Tétive lui dit « Oh, rien, je me renseignais un peu, je vends des assurances. » Elle lui dit « Elles doivent avoir tout ce qu'il leur faut. »« Ah, elles sont riches, elles sont si riches que ça ?»«
Un peu,
oui. » La mère ne travaille pas, la fille est à l'université, et avec la maison qu'elles ont, elles sont propriétaires.
Et vivent de quoi?
De rente, tiens.
C'est encore ça?
Oui, il paraît que son mari, un Américain, est très très riche. Il avait une vie très riche à craquer. Il lui a tout laissé.
Était dans quoi son mari?
La chimie, la bio, je ne sais plus. Un homme très riche.
Et elle? Elle a de la famille, cette femme?
Elle a une mère en maison de retraite à la campagne. Très bien. Elle aussi, elle paraît qu'elle est très riche. Plus riche que sa fille. Des actions à craquer de partout. Il paraît que Bill Gates vient la voir en privé de temps en temps, en ami.
Mais qu'est-ce que font ces gens, là, dans un quartier pareil?
Incognito, à cause des espions américains. Mais je crois que c'est par chagrin, parce que madame pleure toujours. Son mari meurt.
Et la fille?
Elle est sérieuse, enfin jusqu'à présent, parce qu'elle fréquente un jeune, et madame est très inquiète. Elle dit qu'il n'est pas bien. Et qu'il va apporter le malheur. Elle ne le voudrait pas pour gendre. Elle en aimerait un autre.
L'origine de la famille sont françaises.
Oui, mais elle a vécu en Amérique, la mère. Un certain temps. Très intime avec Bill Gates.
La famille est fortunée. Vous connaissez la mère, la fille. Et la mère de la mère, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes que vous connaissiez de cette famille? Ou est-ce que vous savez plus de choses sur leur passé?
Non, elles ne sont pas très bavardes et reçoivent presque personne, à part ce jeune Froluquet, comme dit madame.
Bien, je vous remercie. Je vois que pour moi, il n'y a rien à en tirer.
Il sort une tablette de chocolat et la donne à la dame. « Merci !»
Termine son verre et se retire.
«
Une semaine plus tard, il dit tout ce qu'il sait à Charlotte.
Rien d'autre à vous dire. Un conseil tout de même, que votre fils laisse tomber. Elle ne voudra jamais que sa fille se marie avec lui. Mais chose étrange, ou l'on m'a menti, ou je ne sais pas, c'est que, avec toute leur fortune qu'elles ont, elles vivent d'une façon si simple. C'est tout de même étrange. Et puis, on ne connaît rien de leur origine. C'est peut-être des aventurières. Vous voulez que je continue mon enquête?
Oh, merci. Elle lui donne sa carte pour solder. Et une fois que c'est fait, elle le quitte.
Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame.
Dit que son fils fréquente une aventurière.
Son fils va la rejoindre au salon avant de dîner.
Entrez.
Elle est assise dans un fauteuil. Il va vers elle. Elle lui dit :
j'ai quelque chose à te dire.
Il s'assoit en face d'elle.
Pour ton bien, il ne faut plus que tu revoies cette fille.
Mais mère, pourquoi?
Parce que on ne sait pas qui elle est. Elle n'a aucun passé et vit d'une façon bizarre.
Il lui demande : vous l'avez suivie? Enquêtée?
Oui, je l'avoue.
Alors?
Il n'y a rien.
Eh bien, puisqu'il n'y a rien,
tout est pour le mieux. Non, ce n'est pas normal qu'il n'y ait rien.
J'aurais souhaité qu'il y ait quelque chose à redire.
Oui, parce qu'on en aurait su. Là, c'est parce qu'il n'y a quelque chose. Ça cache quelque chose.
Il se lève et lui dit : vous contredisez, mère. C'est absurde, votre jalousie vous aveugle.
Moi, jalouse ? Mais de quoi? D'une gamine qui vient de je ne sais où?
Oui, vous me faites une scène de jalousie.
C'est risible ce que tu dis là.
Je crois que père vous trouverait ridicule. Elle se lève d'un bond et lui dit :
non, absolument pas.
Pourquoi?
Parce que vous lui avez parlé?
Oui. Et qu'est-ce que vous lui avez dit?
La même chose qu'à toi.
Et qu'a-t-il dit?
Il me laisse agir.
Si vous avez lié mon père contre cette jeune fille, je vous en voudrais pour le restant de votre vie. Elle se mord les lèvres et lui dit :
il n'est lié par personne, mais s'inquiète comme moi.
Gilbert réfléchit et lui dit : tant pis que vous ne sachiez rien de concret. Je vous demande de ne pas dire de mal de cette jeune fille qui est aussi pure que vous l'étiez à son âge. Et il se dirige vers la sortie. elle lui dit
« Tu t'en vas ?» Elle repart.
Il se retourne, va vers elle, et lui demande « Comment avez-vous fait pour vous renseigner ?» Elle se pince les lèvres et lui dit
« Je me suis renseigné dans la rue. »
Il la regarde avec dédain et lui dit « Des commérages de commerçants. Il suffit qu'elle n'aille pas chez l'épicier pour qu'elle la dénigre. » Et il sort de la pièce. Elle se dit furieuse.
Et puis tant pis. Je n'aurais pas dû lui parler de mon enquête, ni de la fille. Mais le surveiller, le laisser, s'apercevoir de certaines choses par lui-même et l'aider. Les amoureux sont trop fiers et aveugles. Ils ne supportent pas que les autres critiquent leur amour. Maintenant, c'est trop tard.
Elle fait quelques pas dans la pièce. Et de marcher.
Et puis tant pis. Je suis sa mère après tout. S'il n'est pas content de ce que je lui dis, qu'il aille voir ailleurs. Qu'il aille vivre ailleurs. Tiens, j'ai cette fille. Il revient vite me voir.
Il va vers la table basse pour sonner un domestique.
Je suis chez moi et dire ce que je veux. Je n'ai pas content qu'il aille au diable. C'est tout.
On frappe à la porte.
Entrez!
C'est un domestique.
Madame?
Oui. Je serai seule ce soir pour le dîner.
Bien, madame.
Et la bonne se retire.
Pendant ce temps, Gilbert marche dans les rues. Il est furieux. Il se demande si tous les maires réagissent comme ça. De quel droit ? De quel droit est là de dénigrer ?
Ne sort pas de la cuisse de Jupiter, lui. Le grand-père de son père était simple maçon. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Sa famille a réussi, c'est par pur hasard. N'importe quelle entreprise aurait pu avoir le marché du siècle, comme ils disent.
Et puis, c'est jamais que de démolition, de construction, de maisons, c'est pas des châteaux de la Loire. Ce n'est que ça assemblage de béton, fer, verre, des constructions qui dans 50 ans commenceront à battre de l'aile. Quant à sa mère, elle a eu la chance de tomber sur son père. La
famille de père aurait pu dire la même chose que ce qu'elle a dit sur Nathalie, que ce n'est qu'une aventurière qui cherchait à prendre la fortune des francs blancs. C'est ce qu'elle a fait, comme toutes les femmes mariées. C'est pas pour ça qu'on la traite d'aventurière. Et qui dit que Nathalie fait le bon choix avec lui? Rien peut fondre une fortune à notre époque. Elle peut se retrouver sans rien. Ou il peut vivre avec la fortune de la famille à elle. Et ce serait lui qui aurait fait le bon choix. Il continue à marcher dans les rues. Continue à marcher, la nuit est tombée. Il voit dans une rue un chanteur des rues. Il s'arrête pour voir. Il pense que les chanteurs des rues égayent la rue, les passants. Rien n'est plus lugubre, rien n'est plus triste qu'un chanteur des rues. Il rappelle aux passants la misère, leur misère. La misère parce qu'il est chanteur des rues et parce qu'il n'a pas de travail, qu'il n'a que ça pour vivre. Leur misère parce qu'il, s'il n'était pas pauvre, il ne s'arrêterait pas pour écouter cette chanson minable. Ils iraient au spectacle, mais ils n'en ont pas les moyens. Alors ils se contentent de ce spectacle gratuit ou presque. Gilbert se dit aussi que, en plus, la plupart du temps, ces chansons sont des chansons tristes, qui parlent de leur état de misère, où ils sont. Ils enfoncent le clou là où ça fait mal, c'est-à-dire de leur état de pauvre, et dire que cette personne trouve ça touchant. C'est lugubre, lugubre.
Dans un studio, on a l'air idiot, ce n'est pas très rigolo. Il n'y a pas un bruit, le jour ou la nuit, et l'on tombe dans l'ennui. Enfin, que peut faire le célibataire lorsqu'il vit solitaire? Plonger au passé, lire ou se reposer, on en habite assez. C'est pas comme ça quand on aime, la femme a quelle satisfaction. Avec elle, apportant même des amusements, des distractions. Son chien qui vit bien de sa mère, et mourut le jour et la nuit. Son chat fait miaou et ses canaris font pipi. Si elle voit que ça vous embête, elle saussure avec la trouvaille. Je sais que tu n'aimes pas les bêtes, je vais faire marcher la dessert. Pour manger car ça vient
seul, je mange un tapis en endroit. Il s'éloigne et continue à marcher. Il ne sait pas où il va. Il ne peut pas aller chez Nathalie. Elle serait surprise. Et il serait obligé de lui dire pourquoi il s'est disputé avec sa mère. Ce serait gênant et risquerait de la vexer. Et puis Nathalie vit chez sa mère. À cette heure, on ne va pas chez les gens. Il en a assez. S'assoit sur un banc des quais de Seine. Regarde l'eau et la ville de l'autre côté de la rive.
tout à coup, il sent que l'on vient de s'asseoir à côté de lui. Il n'ose pas bouger. Il aimerait partir, mais cela risquerait de vexer. Vous aussi, vous êtes seul. Il se retourne et voit à sa droite un homme de taille moyenne, maigre, cheveux et barbe blanche, en broussailles, habillé d'un vieux costume râpé gris et d'une chemise qui a été blanche, ouverte. L'homme lui dit, « La plupart, le plus difficile, lorsqu'on est SDF, comme ils disent, c'est la solitude. C'est impossible d'avoir un compagnon de mystère avec soi. Pas de quoi manger, pas de lieu fixe pour se reposer, dormir. Et puis à force de vivre seul, on est oublié de savoir parler. Des fois, je passe des journées entières sans rien dire, sans dire un mot à personne, ou que personne ne m'ait dit un mot. La solitude, ce n'est rien. Mais ce qui l'apaise, c'est de ne rien dire à personne. Tu comprends ? Gilbert lui dit. Oui. Et puis, parler à qui ? La plupart du temps, on est obligé, c'est de rester en retrait des autres, par honte, par manque d'argent, parce qu'on ne peut pas se lier avec quelqu'un sans un peu de sous. Et puis la faim vous rend irritable. Vous sentez mauvais aussi, parce que vous ne pouvez pas vous laver autant qu'il le faudrait. Bert lui dit, je croyais qu'il existait des lieux d'aide pour vous. Oui, mais c'est trop démoralisant de voir ces semblables qui font que de vous parler de leur problème qui est aussi les nôtres, les vôtres. L'impression d'étouffer au lieu. Au bout d'un moment, on préfère la rue. Là, elle est à tout le monde. Et c'est pas un lieu pour les déshérités comme nous. On a encore l'impression d'appartenir au monde. Tandis que dans les foyers, on a l'impression qu'on nous sort du monde, que l'on ne fait plus partie de la vie. Alors on se dit que la vie vaut bien la peine d'avoir faim. Et toi ? Tu es nouveau chez nous ? Gilbert lui dit gêné. Je ne suis pas SDF. Mais que fais-tu à traîner comme ça ? Je me promène. Fais attention, c'est dangereux de se promener comme ça. Et pourquoi ? Avec ta gueule d'ange, tu vas te faire opérer et te faire prendre. Pour me violer ? Non, pour autre chose de plus terrible. La nuit, il y a des gens qui sillonnent la ville et repèrent la bonne chair. Ils les suivent en camionnette et ils les embarquent. Qu'est-ce qu'ils en font ? Ce qui en reste du pauvre gibier, même les chiens n'en voudraient pas. Gilbert lui demande, mais expliquez-vous mieux que ça. Ils prennent des gens pour en faire quoi? Pour en prendre ce qu'il y a de plus précieux en eux. Et toi, tu es un produit de luxe avec ta jeunesse. Les jeunes gens comme toi ne devraient pas rester, sortir le soir. C'est trop dangereux. Et il se lève et s'éloigne.
Gilbert le voit s'enfoncer dans la nuit.
Froid tout d'un coup, seul sur ce banc, le silence de la nuit qui l'entoure, se sent mal à l'aise, il a l'impression d'un danger. Il se lève, se dit qu'il ne veut pas rester sur le quai, que c'est plus dangereux. Il n'y a personne, mais peut-être derrière les arbres, peut se cacher quelqu'un. Alors il traverse de l'autre côté, côté maison. La rue est déserte, mais mieux éclairé, il y a moins de recoins et il se sent plus en sécurité. Mais il ne peut s'empêcher de penser à ce que lui a dit ce vieux monsieur. Il n'a pas tout compris, mais il sent qu'il y a danger. Gilbert, tout d'un coup, seul sur ce banc, le silence de la nuit qui l'entoure, se sent mal à l'aise et a l'impression d'un danger. Il se lève, il se dit qu'il ne doit pas rester sur le quai, que c'est plus dangereux. Et il n'y a personne, mais que derrière les arbres peut se cacher quelqu'un. Alors il traverse de l'autre côté, côté maison. La rue est déserte, mais c'est mieux éclairé. Il y a aussi moins de recoins. Et on ne se sent plus en sécurité. Il peut s'empêcher de penser à ce que lui a dit le vieux monsieur. Il n'a pas du tout compris. Mais il sent qu'il y a un danger. Tout à coup, petit à petit, il sent des pas derrière lui. Il sait pas. Donne le frisson, les pas se rapprochent de plus en plus. Gilbert, malgré lui, accélère, mais n'ose pas courir, car il se peut que s'il court, l'autre en fasse autant. Et là, il se rassure du danger, tandis que maintenant, il a un peu de doute. Mais il a peur, trop peur. Il sent que l'on se rapproche de plus en plus. Il a le corps qui bat, chaud. Il n'ose pas se retourner. Il pense à tout ce que lui a dit l'homme. Et essaye de savoir ce que l'on fait à ces gens qu'on a enlevés. Parce que d'après ce que lui a dit son homme, les gens qu'on enlève, c'est sûrement pour des choses très horribles.
presse le pas. L'autre presse le pas. La rue est malheureusement déserte. N'ose pas demander du secours. C'est fou ce que la peur peut paralyser. Même pour se défendre. Il entend les pas de plus en plus près. Non ! Il vient de crier. Non ! Et cela lui fait peur. Alors, il se met à courir, lui aussi. Il court. Il a le corps qui bat, il court. D'un coup, il est tombé, la tête à la renverse, la première, il a raté le trottoir. Il tremble, tout surpris, la surprise, le choc. Il se sent soulevé. Il a encore plus peur.
Vous êtes fait mal.
Cette voix normale le soulage et dit non. Non. On le met complètement debout. Merci. Merci. Et regarde la personne qui l'a soulevé. C'est un homme grand, mince, les cheveux châtains, petite moustache, lunettes en métal. Et on voit derrière ses lunettes de doux yeux bleus. L'homme a un visage fin et une grande douceur. Il porte un chapeau et un manteau beige. Gilbert se sent complètement calme en voyant cet homme. L'homme lui dit
« Vous avez eu peur ?»«
Oui. »«
De moi ?»«
Oui. » L'homme sourit et lui dit
« C'est vrai. Il faut faire attention en sortant la nuit comme ça. »« Mais je vous sens tout retourné. Allons boire un cognac. Ça vous fera du bien. Ça vous remettra. »
Il prend Gilbert à l'épaule pour le soutenir un peu. Il y a un bar ouvert la nuit dans cette rue. Il mène Gilbert dans un petit bar minuscule et le fait rentrer. Le bar est sombre, décor noir et rouge, petite musique d'ambiance, des tables rondes, noires avec une lampe à chapeau rouge dessus. Il y a quelques consommateurs, la pièce n'est pas très grande et on n'y voit pas grand chose. Le serveur, un jeune homme grand, mince, habillé très collant en noir, vient vers eux. L'homme lui dit
« De cognac !»
Le barman va chercher à consommation. L'homme demande à Gilbert
« Alors, on est dehors ?»
SDF ? Père lui dit, non, je suis sorti comme ça. L'homme le regarde bien, touche son manteau et lui dit, coupe-tailleur, pas SDF, cela se voit. Le barman amène les consommations. L'homme dit à Gilbert, buvez, cela vous remontera. Ils boivent une gorgée. L'homme lui dit, ça va mieux ?
Oui, merci.
L'homme lui dit aussi, moi aussi, je suis sorti comme ça. Au fait, c'est parce que je me suis disputé avec ma femme. Gilbert lui dit, moi c'est avec ma mère. Ah, les femmes, les hommes, nous en sommes entourés de femmes. La mère, la femme, la belle-mère, et des fois la fille. C'était sérieux cette dispute ?
Oui, assez, elle est jalouse.
Toutes les femmes le sont, hélas. Mais moi, c'est parce que je travaille trop. Je travaille dans un laboratoire et je fais beaucoup d'heures. Et vous ?
Moi, c'est parce que je fréquente une copine.
Oh, ça, c'est beaucoup plus grave. Une mère ne n'aime pas ses belles filles. Elle fera tout pour votre désunion. Pour que votre union ne marche pas. Que vous restiez seul avec elle.
Gilbert lui dit, nous ne sommes pas encore là, ce n'est que le début.
L'homme lui dit, c'est vrai, vous êtes encore jeune, et que faites-vous dans la vie ?
Je suis étudiant en lettres, je veux être professeur de lettres.
L'homme lui dit, c'est bien ça, mais est-ce que ça va servir à quelque chose à notre époque ? Les gens ne le lisent plus ?
Gilbert lui dit,
ils ne lisent plus, mais tout de même, les nouvelles technologies sont basées sur l'écriture.
L'homme lui demande,
vous êtes en bonne santé ?
Gilbert fait, comment ?
Excusez-moi, des formations professionnelles.
Ils terminent leur verre, l'homme lui dit,
vous en voulez un autre ?
Non, merci.
Et que comptez-vous faire maintenant ?
Gilbert lui dit, sûrement rentrer chez moi, et voilà, après je verrai.
Moi, je vais faire encore une chose. Après, je rentre. Ma femme sera endormie et demain, je pars avant qu'elle ne se réveille pour éviter les disputes.
Nous en sommes là.
Sortons.
Ils se lèvent et sortent du bar.
La nuit, la fraîcheur les surprenne. L'homme lui dit,
vous avez eu très peur tout à l'heure.
Oui.
Ils se mettent en marche. Gilbert, sans savoir pourquoi, suit l'homme.
L'homme lui dit, vous avez raison. La nuit, les nuits sont troubles. Un jeune homme comme vous attire les tentations.
Gilbert lui dit, je sortirai plus seul.
Mais vous n'êtes plus seul. Et ne serez plus jamais seul.
Pourquoi ?
Parce que je vous protège dans cette nuit.
Les quais sont très sombres. Presque pas de lumière. Ni de passants. On entend de loin le bruit des grands boulevards.
Lui dit, la nuit, dans les rues solitaires, ça vous ramène à votre solitude.
On est toujours solitaire dans ce monde,
parce que personne ne vous comprend. Moi, tout comme vous.
Nous sommes bien maintenant à marcher tous les deux. On a plus chaud, moins peur.
Ces étranges compagnies peuvent faire peur et rassurer.
Je
Je vous trouve très sympathique. J'aime pas les gens vulgaires. Je n'aime que les gens raffinés. C'est à cause de ça que je vous ai parlé. Mais j'aime les gens raffinés, c'est-à-dire qui ont de la classe, ou plutôt de l'élégance. Et vous, vous l'êtes. Je ne supporte pas de vulgaire. Lorsque j'étais enfant, je rêvais, c'est d'avoir un ami qui soit un peu comme vous. Je croyais d'une laideur repoussante. Alors je n'osais pas parler. Gilbert lui dit, vous êtes très bien, merci. Je n'aime pas. Bien sûr, je m'aime mieux que du temps de ma jeunesse. Je me vois mieux. Dans la glace, j'ai vu que j'étais ni bossu, ni défiguré. Mais je le croyais, parce que ma mère me le faisait croire. Peut-être parce qu'elle me voulait pour elle toute seule. Par sa faute, j'ai pas osé avoir d'amis comme vous, à votre âge. Mais je vous ennuie, pardonnez-moi.
Non, pas du tout,
l'homme lui dit. Devriez suivre un autre chemin. Pourquoi est-ce celui-là que vous deviez prendre?
Gilbert regarde autour de lui, il ne sait plus où il est. La nuit, dans ces rues sombres, elles se ressemblent toutes.
Il lui dit, je ne sais pas. Vous voulez aller où?
Gilbert pense à Julien. Place de l'Étoile.
Oui, bien sûr. Je suis une personne comme vous. Si vous permettez, je puis vous y mener. Justement, nous sommes arrivés devant ma voiture.
Gilbert voit une grande voiture noire.
Mais je ne veux pas vous déranger. Ça ne me dérange pas. Je dois passer à mon laboratoire.
Gilbert demande.
C'est votre voiture?
Oui.
C'est sur votre route?
Oui, je ne peux pas faire autrement
qu'être sur votre route.
Bien, je veux bien.
L'homme ouvre la portière. Gilbert s'engouffre. Il voit sur le siège arrière des instruments bizarres, une odeur étrange dans la voiture, comme peut-être de l'éther. Il hésite et dit,
non, je crois que je vais vous laisser.
L'homme sourit et lui dit, c'est à cause de l'odeur. Je suis médecin, une femme enceinte, amenée d'urgence à la clinique. Allez entrer, il est tard, j'ai beaucoup à faire.
Gilbert hésite.
Ne faites pas l'enfant.
Gilbert entre.
L'homme ferme la portière.
Et met la voiture en route.
Ne faites pas l'enfant et détendez-vous. Profitez de l'instant.
Et la voiture file dans la nuit.
L'homme lui dit, je suis satisfait de ma nuit.
Gilbert lui dit,
j'allais au laboratoire pour travailler?
Non,
déposer ma livraison et après je pars. Mettez votre ceinture de sécurité, on ne sait jamais.
Et tout en conduisant, il met la ceinture à Gilbert.
L'homme sourit, semble heureux.
Gilbert commence à être fatigué.
L'homme lui dit, vous voulez des bonbons?
Non, merci.
Des cigarettes?
Non, merci.
Servez-vous dans le vide-poche? Il est vrai que vous avez déjà bu votre verre.
Gilbert regarde où l'on va et voit que l'on s'éloigne de Paris.
Il demande, mais où là allons-nous?
Je vais livrer mon colis,
Mais devrions aller avant, place de l'Étoile,
l'homme lui dit.
Si je vais place de l'Étoile, je n'ai plus de colis à livrer.
Gilbert demande, comment?
Oui, parce que tu es mon colis.
Comment? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?
Moi, rien. Mais les gens du laboratoire, oui. Ils vont te prendre tous tes beaux organes. Te couper en petits morceaux. Même te prendre ton ADN. Eh, cet ADN est précieux. Ils vont le garder.
Mais vous êtes fou? Sortez-moi d'ici. Vous ne savez pas qui je suis?
Je marmotte qui tu es, mon petit homme, en parfaite santé, qui a des organes en bon état de marche, et c'est tout.
Je suis le fils Franblanc,
l'homme rit. Il n'y a pas si longtemps, monsieur rognait sa mère. Maintenant, il se sert de son nom, du nom de sa famille, comme paravent et porte-drapeau. Sale petit ingrat qui crache dans la soupe. Ça te fait une bonne leçon d'apprendre à renier tes parents. Maintenant, c'est trop tard.
Lorsque mon père l'apprendra, sa colère sera terrible.
Il faudra qu'il ait de drôles de vues pour qu'il te reconnaisse, pour qu'il reconnaisse son fils. Dans cette porte gluante, jaunâtre, dans les bocaux. Ta mère, cette fois, elle te reniera. Comme tu l'as fait. En te voyant, elle dira,
non, ce n'est pas possible. Cette chose si horrible. Mon fils, lui si beau, si jeune.
Gilbert lui dit, c'est pas drôle du tout.
Il ferait mieux de rire un bon coup avant que l'on arrive, parce que tu sais, pour garder la viande bien fraîche.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.